tous, vous êtes sur Radio Grand Ciel, l'émission La Voix des Notaires. Franck Granger, je suis notaire à Chartres et je vais vous parler aujourd'hui des contrats de mariage et du mariage en général. On s'aperçoit que les beaux jours font que les jeunes couples viennent en vue du mariage chez les notaires pour le choix du contrat de mariage. En France, le mariage est toujours considéré comme une institution et il constitue un socle de base à l'organisation de la famille, et les articles 220 et suivants du Code civil organisent le mariage en lui-même, tandis que d'autres articles plus lointains dans le Code civil, au-delà de l'article 1300, organisent les différents régimes matrimoniaux. Alors il y a des articles qui s'imposent à tous les mariages et qui font partie des textes qui sont lus par le maire au moment du mariage et qui s'imposent quel que soit le régime matrimonial que l'on choisit. Ce sont les articles 220 et suivants du Code civil qui nous parlent d'obligations que tout le monde connaît sans le savoir. C'est l'obligation d'habiter ensemble, l'obligation de contribuer à l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, l'obligation de fidélité et l'obligation alimentaire entre époux. Vous avez donc dans ces obligations quelques précisions, notamment sur le logement de la famille. Lorsqu'un bien immobilier appartient à l'un seul des deux époux, les deux époux doivent signer lorsque ce bien est vendu, que ce soit une résidence principale ou une résidence secondaire, car c'est la protection du logement de la famille. Il faut savoir également que l'article 220 nous précise que les époux sont solidaires des dettes de ménage. Ça veut dire que les époux ne peuvent pas dire que l'un des deux ne sera pas tenu aux dettes si ça constitue une dette du quotidien. Au-delà de ces précisions, le régime matrimonial va organiser la propriété des biens des époux pendant le mariage. Le régime matrimonial, c'est ce qui va parler uniquement des biens. Ça veut dire qu'on va se poser plusieurs questions. À qui vont appartenir les biens que les époux avaient avant de se marier ? À qui vont appartenir les biens que les époux ont eus pendant le mariage, soit en les achetant, soit en héritant, et à qui appartiendront les biens que les époux auront à la fin du mariage? Ce sont ces questions-là auxquelles va répondre le contrat de mariage et le régime matrimonial. Alors, que se passe-t-il lorsqu'on ne fait pas de contrat de mariage déjà ? À défaut de contrat de mariage, la loi a prévu l'application d'un régime supplétif, c'est-à-dire que ça va être le régime de la communauté réduite aux acquêts qui va s'appliquer lorsque l'on n'a pas signé de contrat de mariage. Qu'est-ce que c'est que la communauté réduite aux acquêts ? C'est un régime qui va dire que tous les biens que les époux avaient jusqu'au jour du mariage restent leur appartenir. Tous les biens que les époux vont acheter, donc les biens que l'on a acquis, d'où le mot « les acquêts », tous les biens que l'on a achetés à partir du jour du mariage vont dépendre de cette communauté. Cette communauté, ce sera un patrimoine sur lequel les époux auront droit à la moitié à la fin du mariage. Et tous les biens que les époux auront pendant le mariage, sans les avoir acquis, eh bien, resteront des biens propres. Ça, c'est le régime matrimonial légal lorsqu'on n'a pas fait de contrat de mariage qui dit autre chose. Ce régime a l'avantage de la simplicité parce que tout ce que l'on achète pendant le mariage appartient toujours aux deux. Ce régime correspond à la majorité des Français où il y a énormément de salariés et on ne prend pas de risque patrimonial dans sa profession. Donc le régime de la communauté peut très bien s'appliquer sans que l'on vienne risquer de saisir les biens à cause du travail. Ce régime est moins pertinent lorsque l'un des deux époux est un professionnel indépendant, agriculteur, artisan, professionnel libéral ou encore industriel. Dans ces cas-là, on préconise plutôt ce qu'on appelle un régime de type séparatiste. Vous en avez deux grands modèles, c'est la séparation de biens pure et simple, qui dit tout simplement que les époux vont rester seuls propriétaires de tous les biens qui leur appartiennent. Il n'y a donc pas de communauté qui va naître entre les époux pendant le mariage. Les biens qui seront achetés seront à l'un ou à l'autre ou aux deux, mais à chaque fois on pourra choisir à qui ça appartient selon l'effort de financement qui sera fait par celui qui achète. L'avantage de ce régime, c'est la simplicité également, car nous n'avons pas besoin de partager a priori de biens à la fin du mariage, sauf pour les biens qui ont été achetés en indivision, achetés ensemble. Son inconvénient, c'est que c'est un régime qui peut être très inégalitaire, car il suffit que ce soit l'un des deux époux qui ait seul travaillé, il n'y aura que lui qui aura pu acheter les biens et qui se sera enrichi. Pour éviter une telle inégalité, il y a ce qu'on appelle le régime de la participation aux acquêts, qui est un régime de séparation de biens, et à la fin de ce régime, on rééquilibre l'enrichissement supplémentaire de l'un par rapport à l'autre pour se terminer comme si ça avait été une communauté. Ça a donc l'avantage de la séparation pendant le mariage et l'avantage de la vocation communautaire, qui est assez propre aux époux français, à la fin du mariage. Vous avez également un autre type de régime qui est ce qu'on appelle la communauté universelle. Cette communauté universelle, elle va être constituée d'absolument tous les biens que les époux ont achetés pendant le mariage, les biens que les époux ont pu hériter, on met tout en commun. Et en général, ce régime est assorti d'une clause d'attribution intégrale, ça veut dire qu'au décès du premier des deux époux, le deuxième devient propriétaire entièrement, le survivant, de tous les biens, et c'est au décès du second que les enfants héritent de ce qu'a laissé le second. C'est un régime matrimonial qui, en général, est conseillé aux gens qui sont certains de ne plus avoir d'autres enfants, ou qui sont certains également de ne plus avoir de risques professionnels, car ils sont à la retraite ou sont certains de ne pas avoir de profession indépendante. Il faut savoir que l'on peut changer de régime matrimonial pendant le mariage. Pour ça, il suffit d'être marié depuis au moins 2 ans et vous avez maintenant une procédure dite simplifiée. Lorsque les époux ont uniquement les mêmes enfants et que ces enfants sont majeurs et ne sont pas en tutelle, il suffit qu'ils signent l'acte chez le notaire et que les époux ensuite écrivent à chacun des enfants en recommandé, enfin c'est le notaire qui le fait, en disant que les parents projettent tel changement de régime et les enfants ont dans ces cas-là un délai de 3 mois éventuellement pour s'y opposer. À défaut d'opposition, le régime matrimonial devient définitif. Lorsque les époux ont des enfants mineurs ou n'ont pas les mêmes enfants, il faut dans ces cas-là demander encore au juge d'homologuer la convention matrimoniale qui était la règle jusqu'en 2006. Voilà donc en résumé. Le régime communautaire est donc un régime qui est plutôt adapté aux gens qui n'ont pas encore d'enfants ou qui ont les mêmes enfants et qui pensent qu'ils n'auront pas de profession indépendante pendant le mariage. Le régime de la communauté universelle est un régime plutôt adapté aux gens qui n'ont pas d'enfants ou qui auront les mêmes enfants et qui veulent impérativement, en étant certains de ne pas avoir de risque professionnel, vouloir être certain que le survivant des deux soit propriétaire de tout en pleine propriété. Les régimes de type séparatiste sont plutôt à conseiller aux secondes unions, typiquement quand on a un remariage, quand on n'a pas les mêmes enfants, ou quand l'un des deux époux va avoir une profession indépendante et qu'il vaut mieux séparer les patrimoines pour éviter que l'ensemble du patrimoine du couple vienne à être appréhendé dans une procédure collective. Vous avez compris que le contrat de mariage, donc, va nous dire ce qu'il y a dans le patrimoine de chacun à la fin du mariage, donc ce qu'il y a dans une succession si le mariage se termine bien et qu'il n'y a pas eu de divorce. À cette grande famille de contrats de mariage, on peut faire du sur-mesure. On peut par exemple dire que une communauté ne se divisera pas en deux en cas de fin du mariage par le décès, c'est-à-dire si c'est l'issue heureuse du mariage, mais que la communauté appartiendra en pleine propriété aux survivants des deux époux. On peut prévoir ce qu'on appelle des avantages matrimoniaux. On peut, dans une participation aux acquêts, qui est, je vous le rappelle, une séparation de biens que l'on rééquilibre, on peut prévoir que si c'est le survivant qui devait donner des sous à la succession, il en sera dispensé. Et si c'est la succession qui devait en donner aux survivants, il les touchera. Donc des clauses qui permettent d'avantager toujours le survivant des deux époux. Une fois que l'on a répondu à cette question, prenons le cas d'un décès, une fois que l'on a vu ce qu'il y avait dans le patrimoine, après il y a le droit des successions qui vient répondre à une autre question, c'est que ce patrimoine successoral, à qui il va? Eh bien ça, c'est le droit des successions qui répond. Cette question à qui il va être déterminée non pas par le contrat de mariage au-delà des avantages matrimoniaux, mais par ce qu'on appelle soit la vocation légale, soit la donation entre époux et le testament. En résumé, lorsque des gens se sont mariés et qu'ils ne laissent pas de descendants, à défaut de donation entre époux, s'il y a présence d'ascendants, ça va être papa-maman qui vont hériter avec le conjoint qui aura une moitié. S'il n'y a pas de descendants, c'est le seul cas où le conjoint a une réserve héréditaire, et là le conjoint ne pourra pas être déshérité, il ne pourra pas avoir moins d'un quart de la succession. Dans les autres cas, s'il y a des descendants, là les descendants vont hériter avec le conjoint. Si les parents ont les mêmes enfants, le conjoint pourra choisir légalement sans donation entre époux d'avoir tout en usufruit, c'est-à-dire rester en possession de tout, la maison, les meubles, les sous, le chien, les croquettes du chien, tout. Il pourra également choisir pour une option en quart en pleine propriété, option qui est rarement choisie car ça nécessite un partage. Lorsque vous faites une donation entre époux, vous pouvez avoir une quotité encore plus importante. La donation entre époux est donc fondamentale dans le cas où vous n'avez pas les mêmes enfants, dans le cas où vous n'avez pas d'enfants. Elle est moins fondamentale lorsque vous avez des enfants et que ce sont les mêmes enfants, mais elle est tout de même à conseiller, car elle vous donne ce qu'on appelle la quotité maximale entre époux. Donc en cette période de printemps où les mariages se préparent, je vous conseille fortement de vous rapprocher de votre notaire pour qu'il vous donne les détails de ce que je viens de brosser rapidement et voir comment on peut adapter le choix de votre régime matrimonial à votre future union. Je vous remercie, à bientôt.